Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour les 30 prochaines minutes. Au sommaire de cette 50e édition de Point de vue, une centaine d'œuvres de la peintre néo-écossaise Maud Lewis au bon soin du Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse.
Bon, les gens viennent ici et savent qu'on a cette exposition de Maud Lewis permanente pour découvrir une centaine de peintures toutes rassemblées comme ça. C'est assez impressionnant.
L'histoire des Noirs canadiens et francophones albertains prend l'affiche à Edmonton quelques semaines avant le mois de l'histoire des Noirs.
Nous ne sommes pas des immigrants au Canada, nous sommes des bâtisseurs. Cette image-là, cette approche-là, nous devons partager notre vision de nous-mêmes pour que l'autre puisse nous connaître et négocier nos relations.
Près d'une centaine d'élèves de la Côte-Nord envahissent le petit village de Tête-à-la-Baleine. On se mobilise pour aller les chercher en motoneige.
Tête-à-la-Baleine est tout à fait bien situé, donc en deux villages anglophones. C'est pour ça qu'on a choisi de faire ce rendez-vous-là à Tête-à-la-Baleine, donner une deuxième vie ici au village, puis en même temps faire la promotion de la langue française. Alors c'est pour ça que les anticostis vont venir se joindre aux élèves de Tête-à-la-Baleine.
Et la santé, la santé, la santé est de toutes les conversations. La région rurale de Lac-Labiche en Alberta fait des pieds et des mains pour garder la tête hors de l'eau. Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Notre premier arrêt aujourd'hui, on le fait à Edmonton, où la compagnie Kayanu présentait il y a quelques jours une soirée découverte de l'histoire et de la contribution des Noirs en Alberta et au Canada. Cet événement proposé par Kayanu précédait de quelques jours le mois de l'histoire des Noirs, qui est en février. Mireille Isidore, professeure de français au campus Saint-Jean et fondatrice de Kayanu, ne cache pas que c'est pour elle l'occasion de discuter de l'importance de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Mireille Isidore est en compagnie de notre journaliste Éline Koulou.
Bonjour Mireille.
Bonjour, merci de m'accueillir à l'antenne. C'est un plaisir de communiquer, de partager l'information avec vous.
C'est un plaisir aussi. J'aimerais savoir quelle est la motivation qui vous a poussé à mettre sur pied cette compagnie Kayanu.
La motivation, comme toute motivation, elle vient d'une histoire personnelle en fait, parce que moi je suis mère monoparentale qui a élevé 3 enfants noirs à Edmonton, 3 garçons. D'abord, avec la pandémie, j'ai vu les ravages. J'ai observé ça en première ligne avec un de mes garçons, les ravages du confinement de la santé mentale des jeunes noirs. Donc, nous avons lancé notre premier forum sur la santé mentale des jeunes noirs et les défis auxquels ils faisaient face dans l'apprentissage en ligne. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était comme une thérapie collective. C'était pas juste les enfants. En situation de dépression, de détresse mentale, il y avait aussi les parents, il y a tout l'environnement familial qu'on devait guérir par rapport à ça. Mais toute la question, la crise identitaire aussi que j'ai constatée à l'occasion de ce forum-là, donc qui m'a poussée à m'interroger sur la crise identitaire que traversent les jeunes noirs francophones de l'Alberta.
Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous présenter justement un événement culturel bilingue organisé par Kayanu en vue de mieux faire connaître l'histoire de la contribution de Noirs en Alberta au Canada. Que poursuivez-vous exactement lors de cet événement?
Les objectifs, ils sont multiples. Pour remercier d'abord la FRAP que nous avons approchée dès le début, qui a spontanément apporté son soutien à notre projet. Donc, ces premiers pas aussi ont été encouragés par le conseil scolaire, par le campus Saint-Jean, par la société d'histoire, par l'AGIFAS. Donc, il y a vraiment des gens à qui on a fait appel pour lancer ce processus de réflexion et qui spontanément nous ont ouvert les bras. Donc, c'est vraiment de se familiariser avec l'histoire des Noirs au Canada. On a parlé des contributions, mais de découvrir aussi les pionniers. Nous ne sommes pas des immigrants au Canada, nous sommes des bâtisseurs. Cette image-là, cette approche-là, nous devons partager notre vision de nous-mêmes pour que l'autre puisse nous connaître et négocier nos relations. Surtout, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Parce que c'est un peu ça aussi, quand on parle de la question de l'identité, on parle de notre héritage, ce que nous avons en commun, les éléments identitaires que nous partageons ensemble en tant que Caribéens noirs. Moi, je viens d'Haïti, mais en tant aussi que des Noirs qui viennent de l'Afrique l'Ouest, que des Noirs qui viennent des États-Unis, qui ont commencé l'histoire des Noirs aussi au Canada. Donc, on doit découvrir ces éléments identitaires en tant que Noirs, en tant que Canadiens, pour que nous puissions entreprendre un dialogue sur le vivre ensemble. Alors, c'est l'idée de cette soirée-là, permettre de mieux faire connaître l'histoire et la contribution des Noirs en Alberta et au Canada, et aussi d'assurer cette ouverture-là sur l'autre et une meilleure vision, je pourrais dire, de la participation de tous dans un projet plus inclusif.
Et je vois que tout ceci se fait près du mois de l'histoire des Noirs, c'est-à-dire le mois prochain, le mois de février. Je dois donc comprendre que c'est pour les mêmes raisons que vous organisez cet événement.
Oh oui, pour les mêmes raisons et pour d'autres raisons aussi. Parce que pour nous, on veut sortir de l'aspect folklorique du mois de l'histoire des Noirs. Parce que l'histoire des Noirs, ça se vit au quotidien. Les défis, l'expérience, la contribution des Noirs, ils se vivent au quotidien. Ça se passe dans les écoles, ça se passe au milieu de travail. Donc, on doit trouver d'autres lieux, d'autres occasions pour parler de l'histoire des Noirs. C'est pour ça qu'on a voulu faire ça en marge du mois de février et continuer cette conversation également après le mois de février.
C'était Mireille Isidore, professeure des Français au campus Saint-Jean et surtout fondatrice de la compagnie Kayanou, qui est justement à la tête de l'organisation de cet événement. Merci pour cet entretien.
Merci beaucoup.
Et merci à notre journaliste Éline Koulou.
Bonjour, ici Adèle à Halifax en Nouvelle-Écosse. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Une centaine de tableaux de l'artiste peintre néo-écossaise Maud Lewis sont présentés jusqu'au 23 avril au Musée des Beaux-Arts de la Nouvelle-Écosse. Cette exposition est une initiative de la McMichael Art Collection en Ontario. Elle a circulé d'ailleurs dans plusieurs villes canadiennes, notamment à Victoria, Edmonton, Calgary et Hamilton. Des décennies après sa mort, Maud Lewis est aujourd'hui l'une des artistes canadiennes les plus appréciées. Maud Lewis, héroïne de l'art naïf et populaire, a souffert d'arthrite rhumatoïde pendant une grande partie de sa vie, ce qui ne l'a pas empêché de peindre. Elle habitait une maison d'une pièce à Marshalltown, dont elle finit par recouvrir presque chaque centimètre carré de ses peintures. Cette maisonnette, qui a d'ailleurs été transportée jusqu'au musée, son œuvre est constituée de peintures vives, joyeuses, qui présentent des paysages, des animaux, des fleurs, aux couleurs éclatantes. Notre journaliste Daniel Aucoin, posté à Chétican, parle de l'œuvre de Maud Lewis en compagnie de Sarah Fillmore, présidente directrice générale par intérim au Musée des Beaux-Arts de la Nouvelle-Écosse.
Sarah Fillmore, présidente directrice générale par intérim du Musée des Beaux-Arts de la Nouvelle-Écosse. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, on sait que la nouvelle exposition itinérante nommée Maud Lewis est au Musée des Beaux-Arts de la Nouvelle-Écosse depuis novembre dernier. Parle-nous d'abord un peu de l'artiste Maud Lewis et de son œuvre.
Alors Maud Lewis est artiste néo-écossaise. C'est un artiste qui est très bien connu ici en Nouvelle-Écosse, mais aussi de plus en plus à l'extérieur, alors au Canada et aussi à l'international. C'est un artiste qui est connu pour son travail on dirait naïf. Ce sont des peintures, des dessins, des œuvres qui ont une qualité assez charmante et qui décrit la vie quotidienne autour d'elle.
Alors, parle-nous de votre galerie permanente de Maud Lewis qu'on retrouve au Musée de la Nouvelle-Écosse depuis 1998.
Oui, effectivement. On a une belle petite galerie qui est dédiée à Maude Lewis et on a, je crois, l'œuvre définitive de Maude, sa maison même. Alors, c'est une œuvre qui est assez spéciale. C'est la maison où elle et son mari Everett ont vécu. Et lorsque les deux sont morts, la maison a été abandonnée et ensuite est venue ici au musée, installée comme œuvre elle-même. Elle est tout pleine de peintures. Alors, Maude Lewis a peinturé les fenêtres, les portes, les escaliers, un peu de tout. Et c'est une œuvre super charmante et il y a une petite histoire assez magique et assez attirante. Alors, cette maison est dans la galerie. Il y a aussi, on peut apprendre un peu de ce projet de restauration qu'on a fait pour amener la maison en musée. Et une belle histoire de l'œuvre de Maude et des peintures aussi qui décrivent son processus.
Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette toute nouvelle exposition itinérante nommée Maude Lewis qui est présentée au Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse jusqu'en avril?
C'est l'exposition qui nous vient de McMichael. Alors, c'est le musée qui est connu pour l'œuvre des groupes de sept. Et ils ont ramassé l'œuvre des collectionneurs privés. Et c'est plus de 100 œuvres, 100 peintures et œuvres décoratives qui sont maintenant au Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse. Il y a des œuvres de ces années jeunes où elle avait un très bon un contrôle sur son sujet et la peinture. Et on démontre sa technique lorsqu'elle répète des thèmes et aussi des commissions, alors des grandes œuvres sur panneaux ou bien sur objets décoratifs. Il y a aussi un super beau, une belle collection de cartes de Noël. Elle était connue pour ses cartes. Lorsqu'elle était jeune, elle vendait ses cartes à maison. Et ici, on peut voir une douzaine de petites cartes de Noël.
Est-ce que cette nouvelle exposition, est-ce que ça a été bien reçu jusqu'à date par les visiteurs au Musée des beaux-arts?
Oui, les gens viennent ici et savent qu'on a cette exposition de Maude Lewis permanente. Mais pour découvrir une quantité, une centaine de peintures toutes rassemblées comme ça, c'est assez impressionnant. Et les gens, oui, ils sont venus et ils sont très, très contents de voir ça.
Sarah Fillmore, qui est présidente directrice générale par intérim du Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse. Merci d'avoir pris le temps de nous en parler.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Bonne chance.
Merci.
C'était un reportage de Daniel Aucoin.
Bonjour, ici Sébastien Beltran à Halifax. Vous écoutez Point de vue, suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
La qualité des soins de santé et la rareté de personnel dans le secteur de la santé sont sur toutes les lèvres partout au pays. À l'heure où les provinces et territoires canadiens ont soif de financement, sur le terrain, on continue de colmater les fuites. Et en région rurale, la situation est parfois critique, voire alarmante. C'est le cas dans les régions de Saint-Paul et de Lac-Labiche, en Alberta, à quelques 200 km d'Edmonton, qui souffrent d'un manque chronique de médecins et de spécialistes. On rapportait en janvier à Saint-Paul des réductions et des interruptions de services, l'hôpital Sainte-Thérèse de Saint-Paul a même dû se priver de ses services de natalité entre le 22 et le 27 décembre. À Lac-la-Biche, ces services ne seraient même pas offerts si ce n'était de la présence d'une sage-femme, Chantal Gauthier-Vaillancourt. Vous le devinez, les interruptions de services dans les hôpitaux ruraux ont de quoi inquiéter les personnes à la recherche de soins. Certaines sont renvoyées à la maison sans soins en raison d'un simple manque de personnel soignant. De la lumière au bout du tunnel, il y en a. De Plamondon en Alberta, Vincent Lavoie a rencontré la sage-femme Chantal Gauthier-Vaillancourt pour en discuter.
Chantal Gauthier-Vaillancourt, sage-femme au comté de Lac-la-Biche, on reçoit aujourd'hui au bout du fil pour parler encore de pénurie de personnel dans le système de soins de santé en milieu rural. On va commencer avec la bonne nouvelle, un médecin spécialisé en anesthésie qui est en route pour la région de Lac-la-Biche. Expliquez-nous d'abord comment ça pourrait avoir un impact sur votre travail.
C'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que ça va nous permettre d'avoir accès à des césariennes. Par contre, c'est juste un médecin, donc ça va quand même nous laisser avec des périodes sans anesthésien et donc sans capacité de césarienne, mais au moins, on va en avoir plus qu'on en a eu depuis le mois de mai.
Depuis mai, donc, il n'y a toujours pas de tel service à Lac-la-Biche?
Même aujourd'hui, ou cette nuit, je devrais dire. En ce moment, on n'a toujours pas de service pour les césariennes. Et donc, j'avais une femme qui avait eu une césarienne pour son premier bébé, un accouchement vaginal pour son deuxième, puis là, elle était enceinte de son troisième. Elle voulait pas quitter la communauté parce que ça fait quand même 3 heures de route pour elle et elle a deux petits-enfants. Donc, elle a choisi accoucher chez elle. Puis finalement, ça avançait pas comme on s'attendait. Donc, ça a été un transfert de soins, mais un transfert très compliqué parce que, encore une fois, manque d'ambulance. Donc, on s'est rendu à Athabasca qui, eux aussi, ils font pas d'accouchement, ils font pas de césarienne. Mais on avait peur qu'elle allait accoucher sur la route. Donc, c'était la panique à l'hôpital à Athabasca. Et finalement, après avoir réévalué, on a décidé qu'on était mieux de se rendre jusqu'à Saint-Albert pour la maman et pour le bébé. Donc, toute une nuit blanche.
On parlait encore récemment d'une interruption de service de natalité à l'hôpital de Sainte-Thérèse de Saint-Paul, alors qu'une pénurie de personnel avait engendré d'autres interruptions durant la période des fêtes. Est-ce que votre clientèle se rend même jusque-là? C'est quand même 150 kilomètres depuis Plamondon.
Oh oui. Ben, on a des clientes de Saint-Paul, de Bonneville, de Cold Lake, justement pour cette raison-là. Parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise de ne pas avoir une continuité des soins. Et donc, ils planifient accoucher ici, dans notre salle d'accouchement. Mais je les fais signer des papiers qui disent que, justement, on n'a pas les services pour les césariennes. Donc, tu sais, ça revient au même. Mais la différence, c'est qu'ils ont un suivi sage-femme avec la même sage-femme. Donc, dans le fond, une continuité des soins.
Pour terminer, est-ce que vous avez des souhaits peut-être pour 2023?
J'espère bien que la situation change au plus vite. C'est sûr qu'on a très hâte d'accueillir le nouveau médecin. On n'a aucune idée quand ça va se faire. Ça a l'air la paperasse, c'est compliqué puis c'est long. Donc, en espérant que ça se fait assez vite.
Chantal Gauthier-Vaillancourt, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. On vous laisse le temps de vous reposer un peu.
Merci, bonne journée.
Ici Vincent Lavoie pour IGL à Plamondon.
Une autre bonne nouvelle signe que l'hiver va bientôt laisser sa place à d'autres saisons. Mais oui, croyez-y, les journées rallongent et nous avons aussi le lundi 16 janvier tous ensemble franchi le cap du lundi bleu. Le premier lundi bleu qui est né le 24 janvier 2005 a été imaginé par le psychologue Cliff Arnold, embauché non pas pour s'occuper de notre santé mentale, mais pour donner un beau coup de pouce à l'industrie du tourisme. Le coquin, Marie Hélès, est sur les traces du Lundi Bleu, en compagnie d'Annick Thibodeau, qui est psychothérapeute, et qui offre quelques conseils aux étudiants qui semblent trouver le temps long, mais à vous et moi aussi, pour traverser dans l'allégresse la saison qui s'étire.
Lundi Bleu, le jour le plus déprimant de l'année. En 2023, c'est le lundi 16 janvier. Tombant le troisième lundi de janvier, c'est la combinaison parfaite de plusieurs facteurs. Le jour a été calculé en évaluant la météo, la dette après les vacances, la période post-festive, l'échec des résolutions du nouvel an et la faible motivation. Annick Thibaudeau travaille comme psychothérapeute au CAP.
Lundi bleu, c'est pas une journée, mettons, officielle quand on parle là, dans le DSM-5 ou quoi que ce soit. En fait, c'est une journée qui a été créée en 2004 par un psychologue du nom de Cliff Arnall qui travaillait avec des compagnies pour les voyages dans le sud, pour faire la promotion, parce qu'on se comprend que souvent, ces voyages-là se passent à ce temps-ci de l'année. Par contre, c'est vraiment une belle occasion pour parler de la santé mentale. On se comprend qu'il peut avoir un désordre qui s'appelle la dépression saisonnière, mais sans que ça soit nécessairement à ce niveau-là. Tu sais, quand il fait plus sombre, quand il fait plus froid, quand on est plus isolé chez nous, ça peut être des périodes qui sont difficiles.
La boussole, propulsée par le CAP, offre des services de soutien psychologique aux étudiants du collège La Cité. Annick partage quelques conseils qu'elle donne aux étudiants en cas de coup de blues hivernal.
Le soleil, c'est une des sources naturelles de bien-être, de joie. Puis des fois, ça peut être aussi simple que prendre 30 secondes, littéralement. Tu peux te mettre à une fenêtre ensoleillée, mettre ton visage au soleil, prendre quelques respires pour sentir ce soleil dans son visage ou encore mieux sortir dehors, tu sais, s'habiller chaudement, profiter un peu de cette lumière, de cette vitamine D pour le bien-être. L'autre chose, s'il fait trop froid ou qu'il fait plus sombre, c'est on peut toujours passer par ses cinq sens pour se faire du bonheur. Alors, des choses qu'on peut voir, ça peut être des photos qu'on peut sentir, qu'on peut goûter, se prendre un bon breuvage, un bon chocolat chaud, qu'on peut entendre, que ça soit la tranquillité ou de la musique entraînante, qu'on peut toucher, se mettre son chandail le plus confortable. Alors, tout passer par ces cinq sens pour se faire du bien-être, puis trouver des façons de se choyer. Puis, l'autre chose aussi, de ne pas rester justement encabanné dans son chez-soi, d'aller chercher le social, de sortir, d'aller trouver le monde pour pouvoir justement changer le mal de place, comme ils disent.
Elle souligne aussi l'importance de prendre soin de sa santé mentale.
Il n'y a vraiment aucun mauvais temps pour parler à quelqu'un. Hein? On dit que, par exemple, on ne va pas chez le dentiste nécessairement parce qu'on a une carie, mais on y va de façon préventive. Quand ça vient à la santé mentale, on ne parle pas nécessairement d'être en cas de maladie mentale, mais on peut parler de santé mentale. Alors, on peut travailler de façon préventive si on ne sent juste pas bien, on ne sent pas complètement dans notre assiette. T'sais, je dis toujours, ce n'est pas quand on est en train de se noyer qu'on devrait apprendre à nager. Alors, si on sent qu'on a besoin de parler à quelqu'un, tout simplement, il ne faut pas attendre nécessairement d'être dans le creux de la vague pour demander de l'aide. On peut toujours le faire. Puis, selon le niveau de détresse, le personnel en santé mentale va travailler avec toi, soit de plus en termes de prévention ou justement donner les outils pour ressortir du creux.
C'était une entrevue de Marie Hillès dans le cadre du programme IJL.
Suivez-nous sur Twitter à CanadaLJI, @CanadaLJI.
Le rendez-vous francophonie débarque en février dans le pittoresque village isolé de Tête à la Baleine sur la côte nord du Québec, pour s'occuper de la santé mentale des jeunes et du même coup de l'état de santé de leur francophonie. Ce rendez-vous réunira 90 jeunes élèves venus de 7 écoles de la Basse-Côte-Nord et de l'île d'Anticosti. Ils prendront part au rendez-vous francophonie présenté à l'école Gabriel Dionne du 6 au 8 février. En plus de participer à de nombreuses activités qui mettront la langue française à l'honneur, c'est l'idée d'ailleurs derrière ce rendez-vous, ils auront la chance d'assister à un spectacle de l'auteur, compositeur, interprète Émile Bilodeau. L'événement devait avoir lieu, imaginé, en mars 2020. Il a été reporté de 3 ans Les élèves vont dormir, manger et se divertir à l'école Gabriel Dionne de Tête-à-la-Baleine. Notre intrépide journaliste Pénélope Clermont travaille à Tête-à-la-Baleine. Elle parle de l'événement avec la directrice de l'école Gabriel Dionne, Karine Dubé.
On veut que les jeunes socialisent, on veut que les jeunes créent des amitiés. On sait que la basse-côte est quand même assez grande, donc les jeunes viennent de différents points. Et donc, ça va être un moment tout opportun pour créer des amitiés, créer des liens. Et cela va se faire notamment par des jeux, par des activités, des karaokés, des olympiades, multi-écoles, le tout en français. Donc, vraiment plusieurs petites activités pour susciter l'engagement des jeunes puis la création des liens autour de la langue française. Pour le moment, on a fait un petit sondage. On s'attend à voir environ 90 jeunes sur place. Bien entendu, on est en lien avec les compagnies aériennes, les Nolisées, les motoneigistes et tous les transporteurs de la Basse-Côte-Nord, à savoir l'organisation vraiment précise, à savoir quel sera le nombre maximal de jeunes qui pourra s'y rendre en toute sécurité en respectant nos protocoles de sécurité au centre de service scolaire.
Quand même, j'ai envie de demander où seront tous ces jeunes. Est-ce qu'ils vont dormir à l'école? C'est vraiment quel genre d'expérience ils vont vivre là, concrètement au village? C'est beaucoup, c'est doubler la population peut-être à la baleine.
Absolument, c'est ça qui rend l'événement aussi chaleureux. Hein. Il y aura un revirement, donc le village va redevenir un petit peu plus vivant avec la présence d'autant de jeunes. Je pense que ça fait longtemps qu'on aura reçu autant de jeunes à Tête à la Baleine. Les jeunes, il est prévu qu'ils dorment effectivement là dans les écoles, donc il y aura des différents scénarios qui sont faits en fonction de ceux qui arrivent en motoneige ou ceux qui sont ménolisés. Donc, il y a des lieux, des espaces dans l'école pour chacune des écoles ou chacun des jeunes qui resteront là.
Quelle sera la place des gens du village dans cet événement-là? Est-ce qu'ils peuvent, je sais qu'ils collaborent un peu sur les transports, là, entre autres entre l'aéroport et le cœur du village. Est-ce que les gens vont être amenés à pouvoir participer à certaines activités?
Alors, effectivement, on a fait la demande aux gens du village, puis encore une fois, on a reçu vraiment une belle réponse. Beaucoup de gens qui se sont proposés à venir nous soutenir dans cet événement-là, à faire les allers-retours, des gens en toute sécurité, avec les casques, en respectant nos protocoles. Le spectacle sera également offert à une partie de la population. Alors, on est encore en train d'orchestrer cette partie-là. Je pense qu'il faut faire profiter l'ensemble de la population dans un événement qui est aussi important que celui-là.
Oui, tout à fait. Ben merci beaucoup, Karine. C'est bien apprécié le temps ce matin pour nous expliquer ce rendez-vous à venir.
Et merci, puis on se revoit au rendez-vous prochainement.
Voilà qui complète cette 50e édition de Point de vue. Merci à nos journalistes aujourd'hui, Pénélope Clermont, Marie Hillès, Vincent Lavoie, Daniel Aucoin et Éline Coulou, coordonnateur national Stéphane Bénard. L'émission Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire et rendue possible grâce à votre radio. Vous en voulez plus? Bien, il y a des centaines, des milliers, voire de reportages qui vous attendent sur canada-info.ca. Il vous parle de chaque recoin du Canada, de ce que vos compatriotes, en fait, vivent. Trouvez-nous aussi sur Twitter, @CanadaLJI, @CanadaLJI. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. Merci d'avoir été là. Ciao.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la Baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.